Radio, radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat. En partenariat avec le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPORadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPORadio-TV. À mes côtés, pour animer cette émission, Bertrand Mabille, associé du groupe EPSA. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Pascal Leroy, managing director de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal.
Bonjour Alain.
Ainsi que Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPORadio.tv. Aujourd'hui, mon cher Gilles, focus sur l'univers de l'énergie.
Et justement, pour en parler, nous recevons aujourd'hui un acteur engagé dans la transition zéro carbone, Engie Ineo pour ne pas le nommer, représenté par son directeur des achats, Julien Barthélémy. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous conservez quel souvenir de votre année de fin d'études à Bordeaux où vous décrochez votre master MAI à l'ESC ?
Joyeux, très bon souvenir.
C'était des études joyeuses.
Oui. C'était joyeux.
Chez Cage.
Hein, non, mais j'en garde surtout finalement des amis que je vois toujours et qui sont parmi les plus proches.
Ah, d'accord. C'est
fidélité.
On a réussi en un laps de temps très court à créer un cercle d'amis rapprochés.
Et ils sont souvent jeunes parisiennes comme vous ?
Alors, Pas du tout. Ils sont un peu partout. Ouais. On a pas mal bougé.
Alors comment vous faites, vous retrouvez
un On se voit plutôt pendant les temps de vacances, de week-end prolongé ou
Ah c'est sympa ça, la tribu des anciens.
En 1997, vous faites votre entrée dans la vie active du côté de Troyes, chez Valeo.
Oui.
Quelle est votre fonction et comment la vivez-vous ?
Alors je suis acheteur sur un site de production qui fait des tableaux de commandes de climatisation. Et je le vis avec passion. Pourquoi ? Parce que chez Valeo, en fait, quand on démarre acheteur, on nous donne tout de suite une très grande autonomie. Et puis sur un site de production, ça vit, c'est-à-dire que vous êtes confronté avec tous les problèmes de qualité qu'il peut y avoir avec les fournisseurs. Ça vit au rythme de la production. Et puis quand on est à distance, on va dire toute sa famille, en fait, on fait que travailler.
Est-ce que votre famille n'était pas avec vous à Troyes ?
Non. Donc je faisais le voyage.
C'était où ? À Bordeaux ou à Paris ?
Enfin, ma famille était limitée à ma compagne à cette époque.
Oui.
Et donc le week-end, c'était des allers-retours sur Paris. Voilà.
Bon, ça va encore. Troyes, c'était. Gilles ?
Votre passage à la Société Générale vous offre vos premières responsabilités dans le mode des achats. Racontez-nous.
Alors Société Générale, grand groupe avec une direction achat comme beaucoup qui sur le papier a la légitimité ou en tout cas la prérogative pour mener des actions transverses et dans la réalité est souvent confronté à des principes de subsidiarité qui font que c'est pas si évident. Et moi ma mission là-dedans c'est de mettre en place des projets pour faire simple, pour caricaturer, en allant chercher le sponsor avec le plus de barrettes pour le mettre autour de la table lors des copiles et généralement quand on trouvait le bon sponsor, les entités, les pays ou les directions qui ne voulaient pas suivre se mettaient à suivre assez naturellement.
Garde à vous.
Et vous en avez trouvé quelques-uns ? Vous avez trouvé quelques-uns de haut gradé ?
Ah oui, on a eu notamment un dossier sur tout ce qui était honoraires juridiques hors contentieux où le sponsor a été le secrétaire général du groupe.
Oui, ça va, quoi, ça aide. Hein.
Voilà, donc ça aide.
Après la Société Générale, Microsoft, Cita Suez, votre expérience des achats s'enrichit. Comment atterrissez-vous chez Engie Ineo ?
Comment je pars opportunité et on vient me chasser ?
Vous êtes chassé.
Pas par réseau, hein. Moitié chassé, moitié.
Enfin, les RH de Engie, enfin bref, des gens que je connaissais, parce que Engie et Suez sont assez proches. Voilà, c'est dans ce sens-là où on m'a chassé.
Vous nous rappelez peut-être le métier, même si on le connaît, de Engie Ineo, vous avez différents métiers du groupe ?
Alors, Engie Ineo, je vais faire simple, c'est un installateur électrique, parce que ça peut devenir très compliqué, il y a plein de spécialités. Et on intervient dans les collectivités, soit dans les bâtiments en interne, soit en externe au niveau des systèmes d'éclairage, vidéosurveillance, dans les industries et dans le tertiaire.
Et le périmètre achat, aujourd'hui, Julien, ça représente combien de collaborateurs et puis combien d'achats
au niveau des acheteurs, chez Ineo, on est environ, alors achat et approvisionnement, oui. C'est une filière de 240 personnes.
D'accord.
Pour à peu près 1,4 milliard
d'achats annuels, quoi.
Ouais, ouais.
C'est quand même énorme.
La spécificité, c'est qu'on achète pour vendre.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Donc c'est assez particulier de ce qu'on peut connaître dans d'autres entreprises.
Mmh. Bertrand ?
Donc Ineo fait partie du groupe Engie, qu'on connaît tous, hein, qui est un énorme groupe. Et la difficulté dans ce genre de groupe, j'imagine, c'est de réguler la tension entre bénéficier de l'effet de taille et en même temps décentraliser la fonction d'achat au plus près du terrain pour finalement être proche du terrain, justement. Donc comment on fait pour finalement avoir les deux bénéfices ?
Alors, ce qu'on essaie de faire, en fait, alors ça va être très particulier au portefeuille achat Ineo et surtout au marché fournisseur et au marché client. En fait, on segmente ce qu'on appelle le flow business. Le flow business, c'est toutes les petites affaires côté client, c'est plutôt du consommable. Et là, normalement, les acheteurs sur le terrain, ils vont pas chercher à renégocier, ils vont appliquer les conditions entre guillemets catalogue. Et c'est plus quand on va basculer sur de l'affaire, donc au-delà d'un certain chiffre d'affaires, que les acheteurs vont renégocier quelque chose qui a déjà été négocié potentiellement au niveau du groupe, renégocier au niveau d'Ineo, et ensuite renégocier au niveau terrain lors d'une affaire, parce que c'est un marché qui marche. Dès qu'on a du volume, on renégocie. Voilà, on est vraiment dans un modèle que je qualifierais de distribution, en tout cas au niveau de la majorité de notre portefeuille.
D'accord. Alors, il y a une question qu'on aime bien sur cette radio et qui tourne autour de l'innovation. Hein. Oui. On est dans des phases de rupture sur à peu près tous les métiers. Le métier de l'énergie est à fond dans la transformation. Mmh. Vous avez connu Suez aussi. Et du coup, ça nécessite aussi d'incorporer de la technologie et de l'innovation dans les politiques achats. Mmh. Et du coup, ça, vous le faites comment? Comment vous la appréhendez? Comment on identifie telle pépite, telle start-up? Et comment un grand groupe comme Engie ou Suez peut travailler avec des petites structures comme ça?
Alors, du temps de Suez, j'ai plus parlé de Suez, comme mon expérience chez Engie, elle est depuis un an. Mais en tout cas, chez Suez, qui avait été mis en place, ce sont des structures avec des structures pour aller capturer de l'innovation, des projets d'innovation, avec une équipe qui passe en revue tous les ans tous les projets et qui alloue des budgets. Donc, ça incite vraiment tous les collaborateurs à aller pousser des idées d'innovation. Après, le rôle des achats là-dedans, puisque c'est ce qui va plus m'intéresser, pour que les achats soient vraiment, les acheteurs soient en capacité d'amener de l'innovation, il faut qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain. Et souvent, le problème qu'on a, je vais parler franchement, dans les entreprises de services dans lesquelles je dirais que la maturité achat elle est moins élevée que dans l'industrie, c'est qu'il faut pousser les acheteurs à passer plus de temps auprès des fournisseurs et moins en interne. Donc on est encore sur des sujets, peut-être dans le type une question à venir, où la maturité, la reconnaissance et le positionnement des achats fait qu'on dépense encore pas mal d'énergie en interne pour expliquer le rôle des achats. Là où dans l'industrie, quand c'est déjà bien inscrit dans les gènes, finalement l'acheteur il passe plus de temps sur le terrain et c'est là où il va capter de l'innovation et il peut être celui qui va pousser de l'innovation. Après, il y a des tendances sur certains marchés. Finalement, nous, notre rôle là-dedans, ça va être typiquement d'aller voir des clients et leur proposer des solutions d'optimisation au niveau du TCO global, du coût de l'énergie.
Donc, il y a une vraie notion de service.
De plus en plus. Alors, associé, il a été dit Engie zéro carbone, oui. Mais le motto, on va dire, c'est zéro carbone as a service. Donc, le groupe est vraiment en train de s'orienter vers ce zéro carbone, mais où on veut proposer des solutions les plus globales possibles et as a service, où on peut amener le financement. Donc, on part sur des solutions qui peuvent être rémunérées en fonction du coût énergétique, etc. Et donc par exemple, l'acheteur a un rôle à jouer par rapport au dimensionnement de certains projets, en travaillant avec les fournisseurs, par rapport au cahier des charges,
Oui, donc vraiment impliqué dans le business et dans la stratégie de la boîte, quoi.
Oui.
Bertrand ?
J'ai regardé votre profil, il est assez impressionnant en termes de variété. Hein. Vous avez connu plein de secteurs, travaillé à l'international, vous avez été dans le conseil. Donc vous êtes bien placé pour avoir un peu la vision un peu générale de ce qui est en train de se passer dans la direction des achats. Nous, on a l'impression qu'il y a des grosses transformations actuellement dans les directions des achats. Et donc quelle est votre perspective aujourd'hui? À votre avis, une direction des achats dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Ça se concentre principalement sur les métiers stratégiques. Ça a automatisé les process, qui fait que, comme vous le disiez, on était très centré sur l'interne et peut-être pas assez sur l'externe. Donc ça ressemble à quoi finalement les transformations des directions des achats dans les 5 ans qui viennent?
Voilà, vous avez 3 heures, Julien.
Chapitre 1. J'appellerais ça peut-être une direction de la... De plus en plus, je pense que les directions des achats sont associées avec une notion de direction de la performance. Parce qu'on va aller chercher de la performance au-delà de juste le prix. Finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui, avant, ne s'intéressaient pas aux achats, qui maintenant s'y intéressent parce que les conditions sont plus difficiles. Et donc, à un moment donné, on regarde les différents leviers et on se rend compte que les achats sont un levier qui peut être significatif. Il y aura toujours, je pense, une base qui va être, qui va reposer sur la performance financière. Après, là où il faut qu'on s'améliore et qu'on évolue, je pense que l'acheteur, un des défauts qu'il a, entre guillemets, c'est pas un bon communicant. En tout cas, moi, dans les différentes entreprises que j'ai connues, l'acheteur, il va enchaîner les projets. Il pense pas forcément à faire son marketing. Et il faut quelque part qu'il intègre dans sa feuille de route le fait que quand il finit un projet, il faut qu'il le vende parce qu'on a toujours besoin aujourd'hui.
Il est un des maillons de la chaîne du management.
Oui, mais pour vendre finalement la contribution qu'il a. Parce qu'il y a pas mal d'éléments. On pense qu'au prix, mais il y a plein de choses qui sont faites. C'est un peu entre guillemets. quand ça se passe bien, on voit pas le travail qui est fait, tout le travail qui peut être fait sur un contrat pour gérer les risques, tout le travail qui peut être fait en termes de gestion de panel, en termes de pilotage de taux de dépendance sur les sujets de la sous-traitance, en termes de réglementation, etc. Finalement, tout ça, on n'a pas tendance à le voir. Il faut qu'on le markete aussi, parce que la contribution, elle est beaucoup plus large que juste un prix. Et à un moment donné, de toute façon, enfin ça c'est une tendance qui existe depuis longtemps, les entreprises se ressentent sur leur cœur de métier, de plus en plus externalisent, donc la part achat prend une part de plus en plus importante, parce que si finalement les fournisseurs ne sont pas performants, s'ils n'amènent pas une partie d'innovation, ben, ça va se retrouver sur la performance globale de l'entreprise.
Voilà. Pascal ? C'est passionnant ce que vous dites, hein. C'est vraiment, ça mérite une vraie remise en cause.
Si j'ai répondu, la question était large. Mais...
Pascal ? Non,
vous participez à la conception de la ville intelligente avec les différents programmes. Ouais. Cette ville intelligente, quel impact ça aura sur les besoins d'énergie ou les mêmes baisses d'énergie dans le futur ?
Bon, vous êtes concerné déjà par ça ?
On est concerné. Ce sont des projets entre guillemets d'avenir parce que ça va permettre de réunir pour une ville un ensemble de dispositifs et de piloter l'ensemble de ces dispositifs qui sont en interaction, qui sont en connexion. Et donc, on travaille sur des projets qui, à un moment donné, mélangent aujourd'hui aussi bien la gestion, je ne sais pas moi, de mon trafic, de bus, que la gestion de la pollution, que la gestion de l'éclairage. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, Engie se positionne en tant qu'acteur à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il fait des partenariats avec différents acteurs. J'étais chez Suez. Ben, il y a des partenariats aujourd'hui qui sont faits avec certains projets, avec Suez pour la partie recyclage, pour être capable de proposer aux villes un dispositif complet. Si demain, dans une ville, on identifie qu'il va y avoir de la pollution dans certains quartiers, on peut, avec les outils qu'on a, tout à fait être en capacité demain d'informer la population, de prévoir l'impact que ça peut avoir au niveau des flux des transports en commun pour les dévier, avoir une liste d'habitants de la ville qui ont peut-être des problèmes au niveau respiratoire et leur dire attention, évitez cette zone-là. Voilà, voilà le type d'exemple que ce type de projet peut permettre en termes de... on parle souvent d'attractivité. Et les collectivités, de plus en plus, veulent, grâce à ces projets-là, rendre leur collectivité plus attractive. Et à un moment donné, être capable d'améliorer le confort des habitants, c'est un moyen de se rendre attractif.
Pascal ?
Dernière question. Votre groupe est très présent à l'international.
Oui.
Est-ce que vous nouez des partenariats avec des PME françaises pour votre développement à l'international et puis pour les aider également à vous accompagner et à grandir ?
En fait, je ne saurais pas vous répondre à l'international parce que, en tout cas, moi, mon activité chez Inno, alors on a quelques projets à l'international, mais dans ce cas-là, on est plus à travailler avec des grands acteurs sur des grosses commodités comme l'achat de câbles et choses comme ça. Par contre, au niveau français, on a, en tout cas, INEO, depuis un certain nombre d'années, fait partie du bureau du pacte PME. Le groupe Engie vient de rejoindre le pacte PME. Mmh. On accueille d'ailleurs dans nos locaux, pas plus tard que lundi prochain, un événement organisé par le pacte PME sur les Smart Cities. Et dans ce cadre-là, on a essayé d'inviter un maximum justement de PME qui étaient liées à l'innovation et au projet Smart City pour les mettre en avant. Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment une attention particulière vis-à-vis des PME et une volonté affichée en tout cas vis-à-vis de certains acteurs pour promouvoir cet écosystème.
Alors Julien, j'étais l'autre jour dans la baie de Somme, hein, du côté du Crotoy, pour dire bonjour à mes copains Foc là. Et puis j'ai vu quelqu'un qui faisait du kitesurf là, c'était pas vous par hasard, non ?
Peut-être, j'aimerais bien, c'est de plus en plus difficile de trouver le temps d'y aller, voilà, pour être
honnête. Donc vous adorez le kite ?
J'adore le kite, en fait ça fait longtemps, ça doit faire bientôt 19 ans que j'en fais, donc c'était vraiment au balbutiement au
ouais,
début du kite.
C'était pas très à la mode.
Non, à l'époque, c'était plutôt pas très connu. Et c'est un des rares sports, en fait, qui me permet vraiment de me vider la tête et de ne penser à rien d'autre. Et finalement, quand je fais une activité sportive, c'est ce que je recherche, c'est pouvoir oublier...
Et vous n'avez jamais eu peur, parce que t'entends, ça cartonne quand même, hein, quand il y a un petit peu de zef, non ?
Je me suis fait peur, je me suis fait mal, et avec l'âge...
Bon, ça va, vous avez encore le temps, hein, c'est... Hein ?
Non, mais avec l'âge, on prend moins de risques. Voilà, je suis un peu plus pépère... quand je fais du kite, voilà, l'image des jeunes qui sautent très très haut, c'est un peu moins mon cas.
On les laisse pour les geeks et les jeunes. Voilà. Elle est pour terminer, vous soutenez à titre personnel ou via l'entreprise, hein, des causes caritatives, humanitaires, vous faites des choses, Julien, en matière ?
Pas de façon très glorieuse, à part donner de l'argent à quelques associations.
Bah, c'est très bien.
Non, par contre, je pourrais pas vous parler d'une. Il y a quelque chose en tout cas qui se fait chez Engie et pour lequel je crois que je vais participer si je trouve le temps. Un organisme dont j'ai oublié le nom, mais qui intervient dans des pays en voie de développement, qui finance des budgets pour aller, par exemple, électrifier des villages qui n'ont pas l'électricité, donc c'est installer des panneaux solaires. Et en fait, dans ce genre de projet, donc il y a une organisation au sein d'Engie qui gère ça, qui identifie des projets. Et après, les collaborateurs, qu'ils soient électriciens ou pas, d'ailleurs,
ils vont physiquement dans le pays.
Ils vont physiquement. Moi, j'ai des personnes dans mon équipe qui l'ont fait. Donc, c'est une expérience humaine assez intéressante.
Ouais, c'est beau.
Voilà, où pendant une semaine, deux semaines, ils sont complètement avec les habitants à les aider à construire et à mettre en place une installation électrique. Donc, c'est voilà le genre de belle expérience que j'aimerais bien faire.
Merci et bravo, Julien. Merci également à vous, Bertrand, Pascal et Gilles. Fin de ce numéro de cpioradio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.